o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur le site Spectre, spectremedia.org, avec beaucoup d'autres podcasts liés au mouvement d'émancipation et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Je rappelle que Spectre est un projet militant qui met à disposition aujourd'hui des dizaines de podcasts sur un site entièrement gratuit et sans pub. On ne reçoit aucune subvention publique, on n'a évidemment pas de gros financeurs privés, donc n'hésitez pas à nous soutenir, que ce soit en diffusant nos podcasts parmi vos amis, vos camarades, vos collègues, etc. Ou même, si vous le pouvez, financièrement à travers un don, même modique, sur notre site, dont je rappelle l'adresse spectremedia.org. Ce nouvel épisode va porter sur le philosophe Herbert Marcuse, un théoricien majeur, très lu dans le monde entier, notamment dans les années 60-70, considéré comme l'un des inspirateurs des révoltes de la jeunesse, avec notamment son livre « L'homme unidimensionnel », et pourtant quelque peu oublié aujourd'hui, du moins en France, davantage cité que véritablement lu et travaillé. Justement, dans cet épisode, on va chercher à retrouver Marcuse et son importance pour penser aussi bien les conditions de possibilité et de succès du fascisme, sa capacité de séduction en somme, même si on ira plus loin que ça, mais aussi le type de politique d'émancipation qui peut ou qui pourrait lui faire obstacle, autrement dit des potentialités fascistes qui sont au cœur de la modernité capitaliste industrielle, comme les potentialités révolutionnaires et émancipatrices. Pour ce faire, je suis très heureux de recevoir Aude Guéguin, qui est philosophe, maîtresse de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, et qui a notamment travaillé sur le néolibéralisme, en collaboration en particulier avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvette, qui ensemble avaient publié il y a quelques années le livre « Le choix de la guerre civile », et qui a également travaillé sur la catégorie de « possible », en publiant notamment le livre « La perspective du possible, comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire » avec Laurent Jean-Pierre. Aude Guéguin vient de publier aux éditions Amsterdam un livre intitulé « Herbert Marcuse face au néofascisme », un livre court et accessible qui propose en quelque sorte à la fois une introduction à la pensée de Marcuse et une plongée dans ses écrits sur le fascisme et sur ce qu'il nommait après-guerre les tendances totalitaires des sociétés capitalistes avancées. Un livre que je vous recommande chaudement, car il me semble un instrument important pour se réapproprier Marcuse et affronter les tendances néofascistes de notre temps. Bonjour Aude.
Bonjour Hugo.
Alors, question rituelle, quand on sort un livre, on se demande toujours pourquoi ce livre. Tu parles dans l'introduction, il me semble, d'un fort coefficient d'actualité de Marcuse et de son œuvre, de ses travaux. Qu'est-ce qui le rend, lui et son œuvre, si actuel, d'après toi, et pourquoi on devrait lire ou relire Herbert Marcuse ?
Vaste question, parce que à travers cette question, c'est tout le diagnostic historique de Marcuse à partir de la fin des années 60, au fond, qui se pose. Et effectivement, quand je parle d'un fort coefficient d'actualité, c'est qu'il me semble qu'au fond, Marcuse a repéré des choses dont nous ne sommes pas sortis jusqu'aujourd'hui. Je pourrais en citer au moins trois. D'abord, le fait que la possibilité du fascisme, et je sais que tu as écrit toi-même un livre sur cette question, doit s'envisager sur le long cours, c'est-à-dire que cette possibilité du fascisme, il faut la réinscrire dans l'histoire du capitalisme, du libéralisme et aujourd'hui du néolibéralisme.
Oui, comme une sorte de virtualité toujours présente dans le capitalisme.
Exactement, comme au fond une potentialité immanente au capitalisme lui-même et donc au libéralisme également du fait de ses affinités avec le capitalisme, en raison des ressorts, de la logique d'exploitation et de la logique autoritaire qui est intrinsèque au fonctionnement, qui est requise par le fonctionnement même du capitalisme. Donc ça, c'est un premier point. Et pour Marcuse, au fond, dès les années 30 et jusqu'à la fin de sa vie, dans les années, en 79, le fascisme n'est pas derrière nous, il reste une virtualité présente. Le fascisme étant pour Marcuse quelque chose qui est de l'ordre d'un passage à l'acte ou d'une radicalisation, d'un passage à la limite de cette logique du capitalisme. Donc ça, au fond, c'est une des premières raisons qui montre que ce qui se passe aujourd'hui, on en reparlera évidemment avec ce que tu appelles la nouvelle internationale fasciste ou néo-fasciste. Bon, c'est quelque chose qui doit s'envisager dans son histoire et cette histoire ne date pas d'hier. Mais il y a un autre aspect qui me paraît extrêmement intéressant dans la pensée de Marcuse et dans son diagnostic historique, qui est qu'au fond, à la fin des années 1960, au moment de l'émergence des différentes luttes étudiantes, anticoloniales, féministes, écologiques, antiracistes, bon, anti-autoritaires. Marcuse fait ce diagnostic qui me semble, au fond, demeurer parfaitement ajusté à notre propre conjoncture historique, qui est que, au fond, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est l'alliance et la coalition, ce qu'il appelle parfois lui aussi le front uni, entre ces différentes luttes à l'échelle planétaire, pour cette raison très simple, qui est que, au fond, enfin simple, qui est que ces différentes luttes, il ne s'agit pas simplement de faire alliance dans une perspective stratégique. Il s'agit de faire alliance pour une raison beaucoup plus importante, beaucoup plus fondamentale, qui est que ces différentes luttes, en fait, s'en prennent chacune à une dimension, justement, de cette domination capitaliste. La domination capitaliste fonctionnant, ayant besoin de fonctionner sur ces différents ressorts. Domination des femmes, domination notamment du travail gratuit des femmes, domination coloniale, bon, domination...
Domination de la nature aussi.
Exactement, de la nature. Et donc, pour Marcuse, ces différentes luttes dénoncent donc des formes de domination du capitalisme qui fonctionnent ensemble, qui font système ensemble.
De manière imbriquée.
Voilà. Et donc, ça, au fond, son idée, bon, c'est, je sais que c'est ta propre conclusion dans ton livre « La nouvelle internationale fasciste », je crois qu'on n'en est pas sorti d'une certaine manière. C'est-à-dire que le diagnostic qui était celui de Marcuse dès la fin des années 60 et qui est resté le sien, quoique avec un certain nombre de déplacements, on en reparlera peut-être, mais jusqu'à la fin des années 70, eh bien, ça reste notre tâche. Et on sait aujourd'hui à quel point elle est chaque jour plus urgente et plus vitale.
Beaucoup de choses fondamentales sur lesquelles on va revenir pendant cet épisode. Peut-être avant, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, qui était Herbert Marcuse? Quelle a été peut-être d'abord sa formation intellectuelle et politique et sa trajectoire intellectuelle et politique? On sait qu'il a travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle l'école de Francfort, qui renvoie à l'Institut de recherche sociale qui a notamment été dirigé par Horkheimer. Quelle était sa place là-dedans, dans l'école de Francfort? On connaît aussi les rapports qu'il a pu avoir avec Walter Benjamin. Est-ce que tu peux nous le situer d'un point de vue peut-être indissociablement intellectuel et politique?
Oui, bien sûr. Alors, qui est Herbert Marcuse? D'abord, Herbert Marcuse, c'est un philosophe allemand, philosophe social, philosophe politique, mais aussi philosophe de l'esthétique, qui est né en 1898 à Berlin, dans une famille juive assimilée de la très haute bourgeoisie. Et c'est quelqu'un qui s'engage en réalité suite à octobre 17, qui au départ prend sa carte au SPD, qui est le Parti Social-Démocrate, qui va faire partie du Conseil des soldats à Berlin, bon, et qui va très vite quitter d'ailleurs le SPD suite à l'assassinat de Liebknecht et Rosa Luxembourg, bon, avec la complicité du SPD. Mais de fait, la formation politique et intellectuelle de Marcuse se joue donc vraiment, je crois, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va très tôt, très très jeune, à peine 20 ans en fond, découvrir ou comprendre que la voie social-démocrate n'est pas une option. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un impératif révolutionnaire, ce qui va l'amener à reprendre lui-même à son propre compte le mot d'ordre socialisme ou barbarie.
Et après la répression de l'insurrection spartakiste et l'assassinat de Luxembourg et Liebknecht, il intègre lui-même d'ailleurs la Ligue Spartacus?
Alors oui, tout à fait. Enfin, je crois que d'ailleurs il l'avait intégré avant. Pour ce qui est maintenant de son engagement ou de son inscription dans l'école de Francfort, en fait, Marcuse est admis dans l'école de Francfort, dans le mouvement de la théorie critique fondée autour effectivement de Max Horkheimer en 1933. Marcuse, comme Horkheimer, enfin bon, s'exile, il quitte l'Allemagne avec sa petite famille, il s'exile en Suisse d'abord, où l'école de Francfort est accueillie par l'Organisation internationale du travail. Et puis ensuite, il aura la chance de pouvoir s'exiler aux États-Unis avec Horkheimer. Quelle est la place de Marcuse là-dedans? C'est assez compliqué parce que l'école de Francfort, c'est une école, c'est un groupe, un courant d'auteurs qui partagent un certain nombre de thématiques, et nombreux sont les thèmes que Marcuse va élaborer, qui sont vraiment élaborés en contact, en dialogue avec ses collègues, et notamment effectivement avec Horkheimer. Mais je dirais que peut-être que ce qui distingue Herbert Marcuse assez vite, plutôt disons au moins en tous les cas à partir des années 60, très clairement, de la seconde moitié des années 60, c'est le caractère engagé de la philosophie de Marcuse, engagé au sens sartrien du terme. C'est-à-dire c'est un philosophe qui ne se refuse pas à s'engager, c'est-à-dire très énergiquement, dans les luttes, tout en ayant, et c'est d'ailleurs le sens de toute son œuvre à partir de la seconde moitié des années 60, en ayant une analyse critique. Enfin, une analyse critique, c'est-à-dire qu'il cherche à penser, à comprendre à la fois les forces, mais aussi les faiblesses, les points aveugles des différents mouvements avec lesquels il est en dialogue et qu'il cherche lui-même à approfondir d'un point de vue théorique.
Oui, c'est dans son exil états-unien, c'est quelqu'un qui va à la fois analyser le blocage de la dynamique révolutionnaire socialiste à travers des idées autour de l'embourgeoisement de la classe ouvrière, au moins d'une partie de la classe ouvrière, notamment blanche, de la société de consommation qui émerge notamment dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais qui malgré tout va chercher des ferments ou des potentialités révolutionnaires ailleurs, dans les luttes effectivement contre la ségrégation raciale, les luttes antiracistes aux États-Unis, très vives, avec différentes composantes, différentes stratégies, etc. Mais aussi dans les luttes féministes, dans les luttes anti-impérialistes autour de la guerre du Vietnam, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui va renoncer à l'horizon révolutionnaire, ce qui va être plutôt le cas d'Adorno et Horkheimer notamment.
Tout à fait. C'est vrai que dans l'opus le plus célèbre de Adorno et Horkheimer, La dialectique de la raison, bon, il y a clairement quelque chose comme, non pas un renoncement, mais du moins, en tous les cas, la conviction qu'on ne peut plus du tout s'appuyer sur des énergies révolutionnaires, sur des forces révolutionnaires. Marcuse, d'une certaine manière, d'Aéros et Civilisation, et en réalité même dès 1933, il partage le diagnostic d'un embourgeoisement de la classe ouvrière et donc de la perte d'un grand sujet révolutionnaire qui serait au fond le prolétariat. En revanche, ce que va essayer de faire Marcuse à partir d'Eros et Civilisation, qui est un ouvrage qu'il prépare dès le début des années 50, donc en plein macartisme aux États-Unis, ça va être d'essayer de repenser le sens même de la révolution, mais effectivement à un plan qui demeure purement théorique, parce qu'il n'y a pas de sujet révolutionnaire repérable. Et il va le faire en s'attachant, au fond, à imaginer à partir de différentes figures, mais qui restent assez théoriques ou littéraires, une nouvelle forme de subjectivité, un nouveau type de rapport au monde qui ne serait justement plus fondé sur une relation de domination et de concurrence généralisée, relation au monde et aux autres. Le grand événement pour Marcuse, ça va effectivement être dans la seconde moitié des années 1960, ça va être vraiment l'irruption de tout un tas de foyers de lutte et de résistance qui va l'amener à reprendre d'une certaine manière son diagnostic qui était celui d'Eros et Civilisation, mais cette fois en le branchant beaucoup plus directement sur des pratiques. Et c'est ça que moi j'ai vraiment voulu travailler dans ce livre, c'est-à-dire c'est vraiment ce moment politique ou ce moment où la théorie se renoue avec la praxis dans la philosophie de Herbert Marcuse, parce que ça va l'amener à la fois à reprendre un certain nombre de motifs, et notamment cette idée que la révolution se joue essentiellement au plan de la subjectivité, on y reviendra peut-être, mais ça va aussi l'amener à y réfléchir de manière beaucoup plus concrète, et donc aussi en s'interrogeant sur les limites d'une révolution qui passe justement par l'échelle de la subjectivité, parce qu'il va repérer assez vite dans le mouvement dans le mouvement hippie notamment, tout un tas de limites internes mais aussi externes, des récupérations par le système capitaliste, mais aussi des impasses au sein même d'une certaine fétichisation, par exemple des drogues ou de la sexualité génitale.
Et effectivement, il va se trouver beaucoup plus étroitement connecté à des mouvements militants, notamment le mouvement étudiant états-unien, mais aussi au-delà des frontières états-uniennes. Et puis au mouvement noir, notamment via une figure qu'est Angela Davis. Angela Davis a souvent rappelé que Herbert Marcuse avait joué un rôle très important dans sa formation intellectuelle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots en passant
Oui, bien sûr. Aspect-là. C'est vrai que ce qui est intéressant quand on lit tous les textes d'intervention de Marcuse dans les années 60-70, c'est que surtout la fin des années 60, il a plusieurs postes d'observation. Il y a évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis, à San Diego, à Berkeley, en Californie, etc. Et puis, il y a ce qui se passe en Allemagne et même en France. Bon, il est en France au moment de mai 68, par exemple. Alors, Angela Davis, c'est une figure particulièrement intéressante qui était donc une jeune étudiante de Marcuse, que Marcuse a ensuite encouragée à aller elle-même se former à Francfort auprès de son collègue Théodore Adorno, donc qui du coup est devenue elle-même... est rentrée en contact avec les luttes des étudiants ouest-allemands et qui va ensuite rentrer aux États-Unis et s'engager dans le mouvement des Black Panthers, enfin bon, avec ensuite une arrestation, comme on le sait. Et Marcuse est quelqu'un qui va, à ce moment-là, écrire une lettre publique, non seulement pour prendre la défense publiquement de Angela Davis, mais aussi pour dire à quel point il s'agit de quelqu'un qui, intellectuellement, voilà, est fondamental. Et d'ailleurs, dans l'un des ouvrages de Marcuse, qui s'appelle « Contre-révolution et révolte », qui paraît en 1972, il y a tout un usage de la pensée de Davis, notamment sur la question du féminisme. Donc oui, les liens entre Marcuse et Davis sont extrêmement intéressants, à la fois pour comprendre comment Marcuse lui-même réactualise ses propres réflexions et donc intègre la question du racisme, du colonialisme, mais aussi du féminisme, et aussi parce que Davis va être quelqu'un qui va, d'une certaine manière, reprendre, enfin, ben, voilà, ouais. Il y a un dialogue.
C'est ça, il va y avoir une influence réciproque et Davis va en partie prolonger certaines intuitions ou analyses de Marcuse. On va y revenir, hein, notamment sur l'idée du fascisme préventif ou d'une forme de contre-révolution préventive, notamment contre les mouvements noirs aux États-Unis. On sait la violence de l'État américain fédéral contre ces mouvements, le Black Panther Party, mais d'autres organisations également. Et Marcuse va lui-même se trouver très certainement influencé par les idées et les premières élaborations d'Angela Davis. Alors, on va y revenir, hein, mais je voudrais revenir d'abord sur les rapports entre la philosophie de Marcuse et le fascisme historique, disons, notamment le nazisme. Tu montres bien dans, je crois, le premier chapitre de l'ouvrage que Marcuse va chercher chez Freud et dans la métapsychologie de Freud, donc en dehors du marxisme, va chercher des instruments théoriques qui permettent, selon lui, de comprendre ce que tu nommes la destructivité fasciste, donc plus spécifiquement dans sa forme nazie. Et donc, comprendre le nazisme à la fois dans son ascension vers le pouvoir et dans sa capacité à se maintenir durablement au pouvoir, ce qui n'était pas forcément le pronostic de beaucoup à l'époque. Hein. Le Parti communiste allemand pense que le nazisme va s'effondrer au pouvoir. Les capitalistes allemands et les libéraux allemands pensent aussi qu'ils vont utiliser Hitler et s'en débarrasser rapidement. Ce n'est pas ça qui va se passer. Marcuse cherche à montrer comment les nazis se maintiennent au pouvoir et séduisent, non pas simplement par l'usage de la force, c'est un usage évidemment intensifié, radicalisé, etc., mais par leur capacité à produire peut-être des formes de subjectivation spécifiques, peut-être à susciter ou à modeler des affects, des désirs. Est-ce que tu pourrais développer cet aspect de sa pensée et montrer en quoi peut-être ce déplacement théorique, ce passage par Freud, l'aide à penser le fascisme et même, enfin, est rendu absolument nécessaire pour penser le fascisme ?
Oui. Alors, d'abord, peut-être, je pense qu'il faut peut-être revenir à 1919 où... Voilà, il y a vraiment cette prise de conscience par Marcuse d'un phénomène qui restera central dans toute sa pensée, dans toute son œuvre, qui est de très près lié à la question de la possibilité du fascisme ou à l'actualité du fascisme, qui est la capacité, au fond, d'immunisation du capitalisme face à toute possibilité révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui pour Marcuse, est très important pour penser, justement, cette possibilité du fascisme comme, justement, quelque chose qui peut être soit préventif, soit directement offensif, mais qui, de toutes les façons, est une manière d'empêcher, hein, de faire vraiment obstacle à la possibilité d'une révolution en acte. Alors, le passage par Freud. En fait, chez Marcuse, il y a, à partir, donc, dès 1919, Marcuse raconte ça dans un entretien avec André Gortz, il raconte que suite à 1919, bon, il s'est retiré, il a décidé de lire très intensément les œuvres respectives de Freud et de Marx. On sait que c'est pas le premier, peut-être qu'on y reviendra, bon, il y a toute une tradition freudo-marxisme, on en reparlera, j'imagine. Mais lui le fait effectivement dans cette idée qui est qu'on ne peut pas se contenter de penser la révolution, tout comme d'ailleurs la contre-révolution, au plan de l'économie, mais qu'il faut la penser au plan de la subjectivité et de son économie psychique et libidinale. Donc, ce que va faire Marcuse, effectivement, au moment même où il va analyser le fascisme historique allemand, ça va évidemment consister à essayer de comprendre, mais pas encore d'ailleurs en mobilisant véritablement Freud, ça viendra plus tard, notamment à partir d'Eros et Civilisation, ça va être d'essayer de penser l'efficacité du fascisme allemand en la rattachant à justement ce qu'il appelle déjà une certaine production de type d'homme, production de type d'être humain. Pour lui, le fascisme n'est pas possible sans un certain type de subjectivation dont il va précisément essayer de dégager les grands traits dans les différents textes qu'il écrit en gros entre 1934 et 1942, où il produit tout un tas de textes d'une actualité, enfin d'un intérêt très fort, même si c'est des textes que je n'ai pas véritablement pu d'ailleurs présenter et analyser dans le livre, dans la mesure où c'est une collection qui vise plutôt à penser la question de l'émancipation et de la révolution. Et que donc, ces textes sur le fascisme historique, bon, je n'ai pas pu y consacrer véritablement beaucoup de place.
Ce sera des publications postérieures.
Voilà.
Alors, tu parles notamment des formes de compensation qu'assure le fascisme au pouvoir, des formes de compensation en quelque sorte aux masses populaires, en échange en quelque sorte de l'abolition de toute forme de liberté, même liberté dans un sens très restreint, c'est-à-dire la liberté au sens de la société capitaliste. Alors, il y a une première compensation dans le nazisme des années 30, c'est... disons, le plein emploi, en quelque sorte, donc une forme de sécurité économique par des dépenses d'État qui relancent l'industrie, notamment l'industrie lourde, etc. Et donc, qui va progressivement résoudre la question de fait du chômage, qui était évidemment la question qui a précipité la crise de la République de Weimar après la crise de 29, donc au début des années 30, en plus de outre l'inflation, disons. Et puis une compensation peut-être plus à laquelle on pense moins, qui est une compensation qui n'est pas socio-économique, une compensation, disons, psychologique ou psycho-affective en quelque sorte. Hein. Et à un moment du livre, tu parles de cette permissivité affirmative, de quoi s'agit-il ?
Oui, c'est tout à fait surprenant. C'est un texte de Marcuse qui s'appelle « L'individu et l'État sous le national-socialisme », où effectivement Marcuse cherche à penser à nouveau cette efficacité et même cette puissance de séduction du nazisme en la rattachant à un certain nombre de fonctionnement, de dynamique propre au nazisme. Et il emploie cette expression de permissivité affirmative qui m'a vraiment surprise parce que ça rejoint ce que Marcuse va chercher aussi à penser plus tard et notamment à partir des sociétés de consommation en parlant dans l'homme unidimensionnel de désublimation répressive. Donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant, au fond, il y a déjà en 1942, à travers une analyse non pas de la société de consommation mais de l'Allemagne nazie, le repérage de quelque chose qui pour lui va être fondamental, qui va rester fondamental dans les sociétés de consommation pour comprendre pourquoi les individus finalement acceptent des formes de domination qui les empêchent d'accéder à un désir révolutionnaire. Et ce mécanisme-là, il le repère à travers différentes choses, il le repère à au moins deux niveaux. D'abord, il le repère dans une certaine transformation de l'organisation du travail. Ça rejoint en un sens les travaux de Johann Chapoutot dans Libre d'obéir, qui est montré qu'il y avait sous l'Allemagne nazie la mise en place de nouvelles formes de management qui, de certaine manière, préfigurent ce qu'on appelle aujourd'hui le new management. Management où, au fond, entièrement fondé sur une individualisation du travail, une mise en concurrence, etc. Et qui, pour Marcuse, est quelque chose de très important parce que ça permet là aussi, au plan même du travail, d'assurer la mise en concurrence généralisée et d'attendre au fond du travail des formes de compensation qui soient vraiment individuelles. Mais il y a un autre aspect que Marcuse repère de manière très précoce au fond et qui va d'ailleurs l'amener à discuter avec, tacitement en tous les cas, avec Wilhelm Reich, qui est une certaine permissivité, enfin, une certaine transgression des tabous traditionnels, de ce qu'il appelle les tabous traditionnels, et en particulier des tabous sexuels. Il repère, au fond, quelque chose comme une libération sexuelle, c'est ce qu'il dit, dont il interroge, donc, dès 1942, sa véritable puissance révolutionnaire, en disant, au fond, le fait même que le nazisme utilise une plus grande liberté, enfin encourage, disons, une plus grande liberté sexuelle pour des raisons d'ailleurs qui sont à la fois de compensation, mais même tout simplement démographiques, montre bien que l'hypothèse de Wilhelm Reich sur, au fond, la libération sexuelle ou la répression sexuelle comme grand ressort du fascisme, ça ne tient pas. Donc, très tôt, il rentre de manière à la fois implicite, mais critique en discussion avec cette hypothèse de Reich sur la compréhension même de la place de la libération sexuelle, qui, pour Marcuse, entendu en son sens à nouveau génital, hein, n'est donc absolument pas quelque chose qui permet en soi de penser une logique alternative et même antinomique à celle du fascisme et à celle de l'autorité.
On pourrait presque dire qu'il anticipe en partie Michel Foucault dans l'idée que le pouvoir, et y compris là sous sa forme de pouvoir fasciste ou nazi, ne fonctionne pas uniquement, ou même peut-être pas, alors principalement je ne sais pas, mais en tout cas ne fonctionne pas uniquement à la répression des désirs et à la répression tout court en quelque sorte, mais à la production en quelque sorte de désirs autres. Alors au moins pour les groupes dominants, parce que la libération sexuelle dont on parle est sans doute plus concerne essentiellement les hommes considérés comme ariens dans l'Allemagne des années 30, dans l'Allemagne nazie.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'il note dans ce texte, cette idée qu'il s'agit d'un privilège que les hommes ordinaires vont partager avec l'élite. Donc, à nouveau, cette idée aussi d'une identification, d'ailleurs, aux élites, aux hommes forts, etc. Mais pour ce qui est de Michel Foucault, là, tu touches à un point qui est très important, je crois. C'est-à-dire que peut-être qu'on y reviendra, mais disons qu'il y a eu en France, à travers Michel Foucault, mais aussi Deleuze et Guattari, une certaine, au fond, identification de Marcuse à Reich, et donc au freudo-marxisme, et donc à cette idée, au fond, que la domination capitaliste fonctionnerait à la répression sexuelle. Bon, de fait, quand on lit, quand on revient vraiment sur les textes de Marcuse, et donc ceux des années 40, et jusqu'à l'homme unidimensionnel et cette hypothèse d'une désublimation répressive, on voit bien qu'en réalité, certes, Marcuse emploie le langage de la répression. Mais quand il parle de répression, il a tout à fait conscience que cette répression, elle fonctionne elle-même à la production. Production, c'est-à-dire on produit un certain type de subjectivité, produire un certain type de désir. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait dire que Marcuse, bien avant Michel Foucault, invite à penser aussi bien la révolution que le fascisme à partir de la question de la subjectivation et de ce que Marcuse appelait la production de type d'homme, problématique héritée de Weber, enfin de Nietzsche et Weber, disons.
Et d'ailleurs, tu dis dans le livre que peut-être une des raisons de l'oubli relatif de Marcuse dans le climat intellectuel français, notamment via des textes de Foucault ou Deleuze qui le... C'est sa réduction à Reich, en quelque sorte, et à ce qu'a proposé Reich en termes d'analyse de ce qu'il avait appelé la psychologie de masse du fascisme. Tu montres bien que cette réduction n'est pas légitime, en quelque sorte, sur le plan intellectuel.
Oui. Alors, pour être très, très, très clair, je pense qu'il faut évidemment admettre qu'il y a un certain nombre de points communs qui justifient d'ailleurs la catégorie de freudo-marxisme, au moins jusqu'à un certain point. Mon idée, c'est plutôt de dire que cette catégorie fait plutôt obstacle qu'elle ne permet d'éclairer les choses quand il s'agit d'interroger dans son originalité la position qui est celle de Marcuse. Il y a évidemment un certain nombre de points communs entre Reich et Marcuse. Par exemple, cette idée qu'il faut utiliser aussi bien Marx que Freud pour comprendre le désir ou la possibilité de la révolution ou du fascisme. Et cette idée qu'il faut donc partir aussi des formes de caractère, des structures de caractère, des individus tels que ce que la psychologie des profondeurs de Freud permet de la comprendre. Je n'ai pas véritablement fait un travail de confrontation texte à texte dans le livre de Reich et Marcuse, mais je dirais qu'il y a au moins deux grandes divergences qui sont tout à fait fondamentales. Une première que j'ai déjà soulignée, qui est qu'au fond, il ne comprennent pas du tout la notion de répression sexuelle de la même manière. Pour Reich, et ça va évidemment être quelque chose qui va se radicaliser dans sa vie jusqu'à atteindre quelque chose d'un peu grotesque, la répression sexuelle, c'est vraiment la répression de la sexualité génitale. Et donc, au fond, comme le dit Marcuse dans la postface à Eros et civilisation, la libération sexuelle est l'alpha et l'oméga de toute pensée révolutionnaire.
Pour Reich.
Pour Reich, voilà. Et Marcuse note très, je crois, très, très lucidement que, d'une certaine manière, c'est là quelque chose qui est très problématique parce que c'est confondre ce qu'il appelle, c'est très joli comme, comme distinction, je trouve, l'idée d'une explosion de la libido, donc Reich, avec cette toute autre idée qui est celle de Marcuse et qui, selon lui, était aussi celle de Freud jusqu'à un certain point, qui est celle d'une expansion de l'éros, expansion de la libido et de l'éros. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est pas simplement voilà, l'idée de ne plus avoir d'ailleurs aucune forme de sublimation. Pour Marcuse, en fait, il y a des formes de sublimation qui sont absolument pas répressives, mais au contraire émancipatrices. C'est plutôt cette idée d'entretenir un lien qui soit un lien érotique à la totalité du monde, c'est-à-dire des vivants non humains aux vivants humains, ce qu'on pourrait peut-être en termes aujourd'hui plus contemporains penser en termes de care, c'est-à-dire cette idée qu'il va penser dans Eros et civilisation à partir d'une figure comme Narcisse, qu'il va opposer à celle de Prométhée, par exemple. Donc, non pas la productivité, la production qui va de pair avec un rapport de domination à la nature externe et aux autres, mais Narcisse, c'est-à-dire un rapport... un rapport qui est un rapport érotique à soi comme au monde. Et donc qui est un rapport qui n'est plus fondé sur une logique de domination, mais au contraire sur une logique de soin, de capacité à prendre soin du monde.
Et peut-être juste un passage sur une question de vocabulaire pour ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'il faut entendre, notamment chez Freud, par sublimation, désublimation ? Parce qu'effectivement, désublimation répressive, c'est une expression de Marcuse, mais je pense que ça mériterait un petit développement pour que tout le monde puisse saisir ces concepts.
Oui, alors disons que chez Freud, le terme de sublimation renvoie tout simplement au fait qu'un désir libidinal va se trouver réprimé ou refoulé, au fond, au nom des normes sociales et au nom de ce que Freud appelle le principe de réalité. Donc la sublimation, c'est quelque chose qui, psychanalytiquement, pour Freud, est de l'ordre du déplacement. Du déplacement, c'est-à-dire que, plutôt, enfin, ne pouvant pas satisfaire un désir qui est soit un désir sexuel, soit un désir d'agressivité, l'individu va le déplacer, par exemple, dans une pratique artistique, ou dans la philosophie, ou dans le sport. Bon. Donc, c'est toute la logique de la civilisation, pour Freud, qui est en jeu, du travail, de la culture, etc. Cette idée donc, de sublimation, désublimation, Marcuse la reprend, mais là aussi, contrairement, je pense, à Reich, de manière assez nuancée. C'est-à-dire que pour Marcuse, comme pour Freud, hein, au fond, on ne peut pas imaginer une civilisation, y compris ce qu'il appelle une civilisation non répressive, qui ne fasse pas part, enfin, qui fonctionne absolument sans répression. Et donc, toute répression, pour Marcuse, n'est pas problématique, n'est pas de l'ordre d'une domination. Au contraire, il y a des formes de répression, et ça, c'est quelque chose qui va se radicaliser dans sa pensée à partir des années 70. Hein, cette idée que, y compris le mouvement hippie, par exemple, rencontre très vite ses propres limites parce qu'il manque quelque chose comme une forme de discipline. Ce qui rejoint, en un sens aussi, là, des thématiques du dernier Foucault.
Alors, j'en viens peut-être à un autre aspect que tu développes dans tes textes. Alors, à la fois le livre et d'autres textes que tu m'as communiqués qui seront bientôt publiés. Marcuse a très tôt analysé le fascisme allemand, le nazisme, en lien avec le libéralisme. Je pense notamment... Enfin, il y a toute une série de textes. Il y a notamment un texte qui avait été traduit et publié il y a déjà assez longtemps dans Culture et Société aux éditions de Minuit. Comme tu le montres, Marcuse voyait dans le nazisme à la fois un produit du libéralisme et en même temps, en tout cas au départ, hein, un produit de la crise du libéralisme et de ses contradictions internes, mais aussi un renversement monstrueux du libéralisme. Alors, il va évoluer à partir de cette idée, mais c'est la première idée qu'il développe. Est-ce que tu pourrais développer pour nos auditeurs et auditrices ce rapport entre d'un côté le libéralisme, compris ici plutôt dans son sens classique, donc pas le néolibéralisme dont on reparlera tout à l'heure, et d'un autre côté, le fascisme. Et bon, il y a notamment cette idée fondamentale qu'il faut trouver dans le capitalisme libéral les germes, les racines du fascisme. C'est là que naît, pour parler comme Karl Polanyi, le virus fasciste, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Alors, le texte auquel tu fais référence, c'est un texte de 1934 qui, effectivement, est dans ce volume de Culture et Société. Et c'est un texte qui s'intitule... la lutte contre le libéralisme dans la conception autoritaire de l'État. Titre, bon, voilà, qui est tout, en soi tout un programme. Alors, quelle est l'idée de Marcuse ici ? Ici, Marcuse est très proche des analyses de Horkheimer. Il développe un thème qui est vraiment la commun aux théoriciens de l'école de Francfort et qui, en gros, bon, pour faire simple, tient à deux idées principales. L'une, qui me semble extrêmement importante pour comprendre, y compris d'ailleurs le néolibéralisme, on y reviendra, qui est que le fascisme nous positionne dans ce qu'on pourrait appeler les ruines du libéralisme. En tout cas, on est après le libéralisme. Mais l'idée de Marcuse, comme d'Horkheimer, c'est le second élément important, c'est que cette dissolution du libéralisme doit se penser de manière dialectique, c'est-à-dire au fond, c'est pas tant une dissolution accidentelle ou quelque chose qui serait arrivé de l'extérieur au libéralisme comme un accident de parcours monstrueux, mais quelque chose qui, au contraire, est de l'ordre d'une auto-dissolution. Cette idée qu'il y avait, alors, c'est une idée assez marxiste, en un sens, que le libéralisme, du fait même de ses liens de co-appartenance au capitalisme, se compose lui-même d'un certain nombre de contradictions. Il y a une nature contradictoire du libéralisme qui se joue à différents niveaux, notamment dans la conception de l'individu. Bon, l'individu à la fois comme valeur fondamentale, mais en même temps avec une liberté qui ne peut que être intérieure, dans la mesure où le fonctionnement de la société en son entier est organisé au contraire sur une logique de domination et d'exploitation. Donc l'individu est invité à être libre d'une liberté toute intérieure, au fond, toute abstraite, tout en se devant d'accepter la domination dans les faits. Mais contradiction aussi au niveau même de la démocratie libérale, qui à la fois prétend défendre les libertés individuelles, mais qui dans les faits, et Marcuse le note très tôt dans ce texte de 34, qui dans les faits n'hésite pas, quand il le faut, à faire tout ce qu'il faut pour sauver le fonctionnement du capitalisme.
Des formes d'état d'exception ou de répression extrêmement intense et meurtrière, par exemple des insurrections en Allemagne entre 18 et 23.
Exactement, c'est-à-dire que pour lui, c'est ce qui se passe effectivement sous l'Allemagne de Weimar. Et c'est aussi quelque chose qu'il repère dans ce texte de 34. C'est assez intéressant, assez amusant d'ailleurs, que Marcuse cite comme exemple d'un théoricien libéral dont on comprend très bien qu'en réalité, il n'est pas du tout aussi opposé au fascisme qu'on pourrait le penser. Et il cite ici Ludwig von Mises. On sait que c'est au fond le père fondateur du néolibéralisme et qui, dans un texte de 1930, fait l'éloge de Mussolini et salue vraiment les mérites historiques du fascisme qui permet de sauver la civilisation.
Quelque chose qu'on retrouvera, bon, que vous avez développé dans Le choix de la guerre civile et qu'on retrouvera chez von Hayek ou Friedman, qui vont être des soutiens fervents de Salazar au Portugal, mais aussi évidemment de Pinochet au moment du coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. On va y revenir, promis. Juste pour qu'on comprenne bien l'idée, c'est que d'une certaine manière, la promesse du libéralisme politique, d'avoir des individus indépendants, libres, etc., ne peut pas être réalisée en quelque sorte dans les conditions du capitalisme, et le fascisme va en quelque sorte, plutôt que d'abolir les conditions qui rendent formelles et virtuelles cette liberté promise par le libéralisme politique, va en quelque sorte faire le choix, si on veut, d'abolir la liberté elle-même. C'est un peu ça l'idée des contradictions du libéralisme qui vont être en quelque sorte surmontées au moins partiellement et imaginairement par le fascisme.
Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Et ce qui est frappant dans ce texte de 34 auquel tu faisais référence, c'est que vraiment, pour Marcuse, il est très clair que, au fond, le seul véritable ennemi du national-socialisme, c'est le socialisme. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de reprendre ce terme. C'est quelque chose qui, beaucoup d'historiens du nazisme, dont Johann Chapoutot, que tu as reçu ici, dans cette émission, il n'y a pas si longtemps, le rappelaient. C'est-à-dire que cette vieille idée qui reste hélas prégnante, selon laquelle au fond le national-socialisme avait quelque chose avec le socialisme.
Ce qui a été développé par Musk, y compris dans un meeting de l'AFD, en disant « vous n'avez pas à vous excuser du national-socialisme, puisque en gros le national-socialisme c'est la gauche, c'est le socialisme ».
Voilà, et donc Marcuse là-dessus est très lucide, il comprend très bien que le seul véritable ennemi c'est le socialisme, ce n'est donc pas le libéralisme. Et ce qu'il décèle, c'est donc un jeu au fond de complicité entre le fascisme et le libéralisme, avec effectivement, comme tu le dis très justement, cette seule différence qui est quand même très importante, hein, parce que ça fait toute la différence et la violence du fascisme, qui est qu'en revanche, ce à quoi il s'attaque, c'est aux idées de 1789. Mais dont Marcuse rappelle que le libéralisme lui-même, au fond, bon, elles sont restées assez abstraites, ces idées de 1789. C'était de l'ordre de promesses non tenables dans le cadre du libéralisme. Les promesses de liberté, de fraternité, etc., ne sont réellement tenables que dans une société qui ne serait plus libérale, mais qui serait socialiste, pour Marcuse.
Oui, effectivement, Goebbels dira, quand les nazis arrivent au pouvoir, nous allons effacer 1789 de l'histoire. Donc il y a une manière de dire tous ces principes libéraux que les libéraux, d'une certaine manière, ne pouvaient pas tenir, de fait, dans le régime capitaliste, ne pouvaient pas les tenir jusqu'au bout et de manière consistante, nous allons de toute façon nous en débarrasser. Alors il y a un autre aspect que tu développes dans tes travaux, et qui fait aussi un lien avec Yoann Chapoutot, qu'on a déjà évoqué, c'est l'importance du principe de performance et le fait qu'on va trouver dans le capitalisme libéral et notamment dans l'individualisme compétitif, certains des ressorts pulsionnels qui vont favoriser le fascisme et sur lesquels va s'appuyer le fascisme, et peut-être en les poussant jusqu'au bout et jusqu'à ses pires formes de destructivité, pour reprendre tes termes.
Oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin ça a été une surprise dans toutes ces recherches sur les textes de Marcuse des années 30 à la fin de sa vie. C'est vraiment cette, l'importance immense donnée justement à cette logique de la performance, qu'il appelle lui le principe de performance, par exemple, dans Eros et Civilisation, qui est traduit en français par principe de rendement, mais en réalité en anglais c'est principe de performance, et en lequel il repère au fond une rationalité, ce qu'il appelle parfois une rationalité technologique, qui est une rationalité instrumentale poussée à ses extrêmes. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être d'ailleurs moins, qui vient moins de Marx et de Freud même que de Weber. C'est-à-dire au fond cette idée d'une rationalité instrumentale qui est la rationalité prédominante au fondement même du capitalisme, et que cette rationalité est ce qui permet de comprendre la manière dont les individus se subjectivent dans des sociétés capitalistes. Mais il y a un autre aspect que je trouve particulièrement intéressant dans cette critique du principe de performance, qui est qu'au fond, dans Eros et Civilisation, notamment, Marcuse est très proche de tout un tas d'auteurs qu'il cite, mais aussi d'auteurs qu'il ne cite pas. Et je pense ici à Georges Bataille. C'est-à-dire une critique, en fait, de l'utilitarisme, qui est une critique absolument radicale, fondée sur l'idée qu'il faut en finir, qu'il faut rompre avec la productivité, qu'il faut rompre avec la logique de la productivité. D'où, d'ailleurs, dans Eros et Civilisation, des textes très beaux sur son utopie du travail, qu'il pense dans les termes de Fourier, hein, comme transformation d'un travail en jeu, qui est la seule manière de rendre le travail attrayant. Donc pour Marcuse, oui, il y a cette idée que la domination fonctionne à la fois de manière interne, c'est ce que, tout comme Adorno et Horkheimer, Marcuse appelle la domination de la nature interne, domination, enfin, rapport de répression à ses propres désirs, répression aussi de certains besoins. Marcuse va distinguer assez tôt entre des besoins qui sont répressifs et des besoins qui sont émancipateurs. Mais aussi, domination exercée sur les autres, cette logique de la concurrence dont, évidemment, nous ne sommes absolument pas sortis dans les sociétés néolibérales dans lesquelles on est.
Moins que jamais sortis.
C'est ça, moins que jamais, qui sont évidemment là, érigés en système. Mais bon, pour Marcuse, encore une fois, d'une certaine manière, ce n'est pas complètement nouveau. C'est même pas du tout, c'est pas si nouveau que ça. Et puis aussi, rapport de domination sur la nature externe. Ce rapport, au fond, au monde qu'on entretient en considérant que les écosystèmes dans lesquels on est, les animaux, etc., ne nous concernent pas, qu'on peut les exploiter, qu'on peut avoir une forme de violence par rapport à la Terre, disons.
C'est là, d'ailleurs, qu'on trouve des prémices, et même en réalité plus que des prémices de pensée écologique, et en quelque sorte d'un marxisme écologique, si on veut, chez Herbert Marcuse, non ?
Absolument. Alors, sur ce point, je me permets de renvoyer à un article que j'avais écrit avec Jean-Baptiste Villereau dans la revue Les Temps qui restent, sur l'écologie selon Marcuse, enfin, c'est le titre de cet article, dans lequel on essayait vraiment de reprendre cette question de ses tout premiers textes jusqu'à la fin de sa vie. Et en gros, bon, pour faire simple, il y a deux moments. Un moment où on pourrait parler d'un naturalisme théorique chez Marcuse, dès ses premiers textes, notamment dès sa découverte des manuscrits de 1844 de Marx. et qui demeure donc théorique également dans Eros et civilisation, avec cette idée, voilà, cette dénonciation de cette forme de domination propre au capitalisme qui se fonde dans une séparation abstraite, une fiction au fond, hein, pour le dire avec Polanyi, une fiction d'une séparation entre l'homme et la nature, entre les humains et les non-humains, on pourrait dire en termes plus contemporains. Et puis, le moment vraiment écologique de la pensée de Marcuse qui va naître avec le mouvement écologiste lui-même à la fin des années 60. C'est-à-dire que là, Marcuse ne va plus simplement être dans une réflexion d'ordre théorique à partir d'un certain nombre d'auteurs, mais comme Gortz, avec qui il va entrer en relation et devenir très ami. Et il va vraiment s'engager auprès des mouvements écolos et il va aller assez loin, puisque dans un texte qui est en fait un texte issu d'une conférence de 1972, issu d'un colloque organisé à Paris par Gortz qui s'appelait Écologie et Révolution, Marcuse va repérer ce qu'il appelle déjà une contradiction radicale entre le capitalisme et la nature externe. Bon, idée que Foster reprendra, cette idée qu'il y a quelque chose comme une contradiction radicale, puisque le capitalisme est fondé sur justement une logique de domination et d'exploitation infinie, potentiellement infinie, de la nature externe, et que cette nature externe, elle, évidemment, ne peut pas soutenir cette, qu'il y a donc quelque chose comme une mise en danger des écosystèmes. Et Marcuse montre, à partir notamment de la guerre au Vietnam, que c'est là, au fond, peut-être là, la contradiction la plus fondamentale du capitalisme.
Alors, il y a deux évolutions dans la pensée de Marcuse concernant le nazisme en particulier, qui portent, il y en a sans doute d'autres, hein, mais qui portent notamment sur le statut de la rationalité et sur la question de l'État. Tu montres bien dans ton travail qu'il passe d'une vision dans laquelle il insiste beaucoup sur l'irrationalisme du nazisme, et effectivement, quand on lit les discours nazis, on comprend très bien de quoi il ressort, hein, quand il parle de cet irrationalisme, mais il va chercher par la suite à mettre en évidence des formes de rationalité propres au nazisme. Sur la question de l'État, il part d'une vision dans laquelle il insiste peut-être sur une forme d'hyper-étatisme, une sorte de d'État nazi comme Léviathan, hyper-autoritaire, et très centralisé, etc., vers une vision qui va correspondre davantage à ce qu'avait développé Franz Neumann dans Behemoth, qui insiste peut-être plutôt sur la polyarchie, en quelque sorte, sur la concurrence des centres de pouvoir, et qui n'aboutit pas à plus de liberté, hein, qui aboutit en réalité à encore plus de tyrannie, si on veut. Est-ce que tu pourrais peut-être développer rapidement ces deux aspects-là d'évolution de la pensée de Marcuse sur le fascisme allemand ?
Oui, absolument. Alors là, ça renvoie à nouveau à tous ces textes qu'il écrit entre 34 et 42. On en a déjà cité un, j'en ai déjà cité deux. Mais il y en a un autre texte qui est important qui s'appelle « La nouvelle mentalité allemande », qui est aussi un texte de 1942. Et effectivement, chez Marcuse, quand on prend ces différents textes des années 30-40 sur le fascisme allemand, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sa pensée, elle s'organise autour de différents pôles. On a déjà parlé de la question de l'individu, mais il y a effectivement ces deux autres aspects qui sont la question de la rationalité et la question de l'État. Alors, sur le premier aspect, la question de la rationalité, rationalité, irrationalité, effectivement, au départ, dans son premier texte de 34, « La lutte contre le libéralisme », Marcuse, vraiment, en s'appuyant sur un certain nombre d'auteurs, comme notamment Ernst Jünger, et puis d'auteurs de la révolution conservatrice allemande, mais aussi d'idéologues nazis dont on a oublié le nom. Enfin, Marcuse les lit, là, il lit vraiment des sources, il lit ces textes-là. Et il dégage comme un des traits caractéristiques du nazisme cette fascination pour l'irrationnel, cette critique, au fond, à travers les idées de 1789, critique des Lumières et donc aussi une forme de pensée profondément irrationnelle qui, pour lui, dans ce premier texte, va de pair avec, avec au fond, une réhabilitation de la terre, du sol, toutes ces entités.
Des profondeurs de l'âme allemande, des origines,
c'est
etc.
C'est ça, toute une espèce de mystique. Et d'ailleurs, ça l'amène, bon, c'est un peu une parenthèse, mais à distinguer entre un naturalisme libéral et un naturalisme fasciste, le naturalisme libéral étant celui qui croit en voilà, des lois naturelles.
Et qui notamment des lois économiques et sociales.
Lois économiques et sociales, voilà, naturelles. Et le naturalisme fasciste qui, au contraire, est un naturalisme vraiment d'un certain mysticisme du sol et de ces notions dont Marcuse montre qu'elles sont profondément irrationnelles, justement. Mais Marcuse va effectivement évoluer sur ce point et en particulier dans son texte « L'individu et l'État sous le national-socialisme », il va se rallier aux thèses de son ami Franz Neumann, qui dans le Behemoth, justement, développe l'idée selon laquelle l'État national-socialisme serait jusqu'à un certain point un non-État. Alors, bon, non-État, en raison, comme tu viens de le rappeler, d'une multiplicité de foyers, et pour Marcuse, l'un de ces foyers, c'est au fond le devenir monopolistique du capitalisme, c'est-à-dire l'importance, enfin le poids, la puissance énorme qu'en viennent à prendre des entreprises monopolistiques. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, bon, quand on lit ces textes, on ne peut pas s'empêcher, je crois, de penser à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis et à la proximité de Trump avec tous les acteurs de la Silicon Valley.
Je propose qu'on se déplace dans le temps et qu'on en vienne à présent aux États-Unis des années 70 et les textes et analyses que Herbert Marcuse va consacrer au reflux, en quelque sorte, des mouvements subversifs, des mouvements de contestation, mouvements étudiants, mouvements noirs, mais aussi, d'une certaine manière, aussi mouvements ouvriers. Et l'élection de Nixon fin 68 et son mandat commencera début 69. Il va proposer notamment cette notion de contre-révolution ou contre-insurrection préventive à propos de cette dynamique qui se réduit certainement pas d'ailleurs à Nixon, et l'idée même d'un fascisme préventif qui est en partie repris par aussi Angela Davis, George Jackson et le Black Panther Party aussi dans ces années-là, qui va motiver même la constitution d'un front antifasciste par le Black Panther Party dans cette période. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa compréhension de cette idée de contre-révolution préventive par l'État américain ?
Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est un peu de l'ordre d'un tournant dans la pensée de Marcuse. Au départ, il y a quelque chose comme un enthousiasme qui d'ailleurs n'est jamais de l'ordre de l'idée que ça y est, on est dans un moment révolutionnaire. Mais bon, il perçoit à la fin des années 60 des germes de révolutionnaires, des nouveaux sujets révolutionnaires. On en a déjà parlé. Et puis effectivement, à partir de 70, disons, il y a vraiment l'identification par Marcuse très précoce, et donc suite effectivement à l'élection de Nixon notamment, mais pas seulement, de ce qu'il va dans Contre-révolution et révolte appeler une contre-révolution préventive, qu'il caractérise effectivement aussi de contre-insurrection et parfois même de fascisme préventif. Alors, c'est quoi cette idée de contre-révolution préventive ? C'est vraiment les toutes premières pages de ce livre, Contre-révolution et révolte. C'est l'idée, alors je pense qu'on ne peut comprendre en réalité qu'en se disant que Marcuse compare ce qu'il se passe à ce moment-là de ce qui s'était passé, au fond, en 1919. C'est-à-dire que pour lui, si c'est préventif, c'est qu'il n'y a pas eu, on n'est pas après 17, quoi. On n'est pas après octobre 17, on n'est pas après la révolution russe, il n'y a pas eu de révolution.
Ni même de révolution, la révolution allemande ou l'insurrection spartakiste, etc. Il n'y a pas d'équivalent dans les États-Unis.
Exactement. Il n'y a pas cette ébullition. On n'est pas dans la même conjoncture qui était une conjoncture réellement révolutionnaire. Pour Marcuse, il y avait ce qu'il appelait parfois des germes révolutionnaires, des nouvelles subjectivités révolutionnaires. C'est toute l'idée d'ailleurs de la New Left, dont il a toujours considérer que pour devenir véritablement révolutionnaire, encore fallait-il qu'elle soit capable de faire alliance. Et cette alliance ne pouvant elle-même avoir lieu qu'à l'échelle planétaire et en intégrant pleinement également le monde du travail, le monde de la production. Bon, autant de conditions dont Marcuse a toujours considéré que voilà, ils étaient confrontés à tout un tas d'obstacles organisationnels, culturels, etc., et qu'on n'y était pas du tout. Mais ce qui est très intéressant dans cette idée de contre-révolution préventive, quand on lit ce texte, c'est que Marcuse montre que le capitalisme a su quand même prendre la mesure du danger et a su, par peur de la révolution, c'est son terme, se réorganiser complètement sur ce qu'il appelle un mode à la fois global, néo-impérialiste, néo-colonialiste. Bon. Et ici, ce qui est très frappant, c'est que bon, quand on lit ces textes aujourd'hui, on peut qu'être frappé vraiment par la manière dont, je pense qu'on va y revenir, mais dont effectivement Marcuse, à travers cette idée de contre-révolution préventive, identifie quelque chose qui est tout à fait fondamental pour comprendre la contre-révolution néolibérale, qui va notamment trouver un de ses premiers actes fondateurs dans le coup d'État de septembre 73 au Chili.
Effectivement, on pourrait dire que Marcuse, sans employer le terme d'ailleurs de néolibéralisme, anticipe sur l'appréhension intellectuelle, la critique intellectuelle et politique de cette contre-offensive ou effectivement contre-révolution si on veut, ou cet ensemble de contre-réformes néolibérales qui vont être imposées aux populations et en particulier aux classes travailleuses des populations du Nord, mais aussi du Sud global, privatisation, destruction du droit du travail, mise en concurrence ou intensification des concurrences sur différentes scènes, en quelque sorte. Et du coup, qu'est-ce qu'il propose de singulier, peut-être, dans cette critique du néolibéralisme qui, en fait, est émergent à ce moment-là, puisque Thatcher, bon, il y a le coup d'État de Pinochet en 73 qui va aboutir à une dictature militaro-civile et, de fait, avec une doctrine néolibérale très affirmée et une destruction de toutes les conquêtes sociales, notamment hérité de la période de l'unité populaire et de Allende au pouvoir. Mais Thatcher va être élu en 79 et Reagan en 80. Et ça ne va pas prendre une forme militaire pour le coup, mais on va avoir toute une cure néolibérale et l'imposition d'une cage d'acier en quelque sorte. Qu'est-ce que Marcuse propose comme instrument, peut-être comme ressource pour nous, pour penser alors, le néolibéralisme et aussi son lien spécifique avec les formes de néofascisme, si on veut, qu'on peut peut-être désigner avec des noms, hein, Trump, Milley, etc.
Je pense que, en tous les cas, ce que Marcuse nous permet de penser par rapport au néolibéralisme à partir de ses analyses des années 70, et notamment de contre-révolution et révolte, c'est une dimension dont nombre d'auteurs ont montré vraiment qu'elle avait été centrale dans l'élaboration de ce que Christian Laval et Pierre Dardot appelaient la nouvelle raison du monde, par exemple. Et cette dimension tout à fait centrale, c'est au fond la structure contre-révolutionnaire de la néolibéralisation de l'ensemble du monde et à travers la globalisation notamment, mais aussi à travers de nouvelles formes de subjectivation. Et au fond, il me semble qu'on peut même aller un peu plus loin. C'est-à-dire, on peut considérer, je crois qu'il y a un texte d'Étienne Balibar qui dit quelque chose qui est de cet ordre, mais il ne le dit pas à partir de Marcuse. Et ce qui est très frappant, c'est que Marcuse, donc de manière très précoce, le dit, lui, qui est qu'au fond, comprendre le néolibéralisme contemporain, si on se place, si on envisage le néolibéralisme à partir de notre propre conjoncture historique, avec Trump, Milley, etc., ou Caste au Chili, qui vient d'être élu, ce qui est vraiment tout à fait frappant, c'est qu'au fond, la contre-révolution néolibérale, à partir des années 70, c'est une contre-révolution qui doit se penser comme une réponse, une riposte à 68. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous n'en sommes pas sortis. Toute la question de la bataille culturelle, de la guerre culturelle, on voit bien que les ennemis aujourd'hui de toutes ces figures néo-fascistes ou fascisantes qu'on vient déjà de citer, ça reste, comme ça l'était dès 70, ça reste le féminisme, l'antiracisme, l'anticolonialisme, l'écologie, et qu'il y a donc, à travers ce que ces figures-là nomment aujourd'hui le wokisme, on voit bien qu'en fait, les cibles n'ont pas véritablement changé. Ce qui est aussi, je crois, ce qui donne vraiment à la pensée de Marcuse toute son actualité.
Et alors, dans le texte, un texte non publié, tu indiques en conclusion que dans les rapports entre libéralisme classique et nazisme, il y avait à la fois des éléments de continuité souterrain, non dit bien souvent, mais aussi des éléments de discontinuité. Dans le cas des rapports entre néolibéralisme et néofascisme, en quelque sorte, la continuité serait encore plus forte. Est-ce que tu peux peut-être développer cet aspect-là ?
Tout à fait. Alors, cet aspect-là, c'est un aspect que je travaille avec mes amis et collègues que tu as cités, avec qui on avait écrit le choix de la guerre civile, Christian Laval, Pierre Dardot, Pierre Sauvêtre. en retravaillant au fond sur l'histoire du néolibéralisme et en essayant au fond de contester complètement l'idée là aussi que au fond il y aurait quelque chose comme un tournant autoritaire du néolibéralisme. Parce que quand on travaille sur l'histoire du néolibéralisme, et comme je l'ai déjà rappelé, Fulmises a su faire très tôt l'éloge de Mussolini, de même qu'ils ont tous su saluer le coup d'État de Pinochet. Bon, en réalité, c'est se tromper complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, le néolibéralisme n'est pas accidentellement ou récemment devenu autoritaire. Il est autoritaire de manière intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est vraiment fondé sur... une logique qui est celle d'une peur, enfin d'une méfiance radicale, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de la démocratie, par exemple. Et donc, quand on compare le texte de Marcuse sur le rapport, enfin, dans la lutte contre le libéralisme, le lien entre fascisme historique et libéralisme, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, même s'il s'agit d'une autodissolution, il y a bien des éléments fondamentaux qui étaient des éléments du libéralisme qui se trouvent complètement désactivés, et notamment les idées de 1789, la liberté politique, par exemple, cette idée d'une liberté politique des individus. Les choses sont très différentes si on compare ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le néofascisme contemporain et le néolibéralisme. Parce qu'au fond, il n'y a dans le néolibéralisme, enfin le néolibéralisme est d'emblée un illibéralisme. Ça, il faut vraiment être clair. C'est pas la continuation du libéralisme. C'est vraiment une rupture avec la logique libérale de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout une valorisation de la liberté politique, mais uniquement de la liberté économique. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle tous ceux qui aujourd'hui considèrent qu'on serait dans un grand basculement, que au fond le néolibéralisme serait derrière nous, qu'on serait rentré dans quelque chose d'autre, à la fois parce que le néolibéralisme était globaliste ou parce que le néolibéralisme reposait sur des formes au fond non autoritaires de gouvernementalité, je crois que ce sont vraiment des... À mon avis, c'est se tromper complètement de diagnostic. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, une figure comme Trump, pour se limiter à lui, incarne bien plutôt une forme de radicalisation de la dimension autoritaire du néolibéralisme que une rupture avec le néolibéralisme.
Oui, on pourrait dire que, d'une certaine manière, le néofascisme fonctionne comme un néolibéralisme zombie et radicalisé dans ses prémices les plus antidémocratiques et autoritaires et dans toutes ses pulsions concurrentielles, agressives, etc. C'est un peu ça l'idée, non ?
Alors, c'est ça l'idée. C'est à la fois certaines conceptions... bon, parce que, par exemple, considérer que le néolibéralisme... Enfin, que le Trumpisme, par exemple, se fonderait sur... Enfin, on voit bien que une des prémices fondamentales du néolibéralisme, c'est l'État fort. Motif d'ailleurs qu'ils reprennent à Carl Schmitt.
L'État fort pour un marché libre.
Voilà, État fort pour un marché libre. Bon, alors, on voit bien qu'évidemment, cette dimension de l'État fort, Trump, il n'y a absolument pas renoncé. Il se sert de tous les moyens qui sont à sa disposition pour renforcer justement logique du capitalisme. Alors, la seule vraie nouveauté, il faut quand même la prendre au sérieux, c'est effectivement une certaine rupture avec un multilatéralisme géopolitique. Bon, ce qui est, dans l'histoire du néolibéralisme, une nouveauté. En revanche, comme tu viens de le rappeler, il y a toutes ces dimensions du néolibéralisme qui demeurent plus que jamais actuelles, à la fois l'idée de conduire l'État comme une entreprise, d'une certaine manière, l'État-entreprise, mais aussi cette extension de la logique du marché et de l'entrepreneuriat jusque dans l'intimité et la subjectivité des individus. Et là-dessus, effectivement, cet ordre de la concurrence, ça n'est absolument pas quelque chose qui est terminé. Donc, en réalité... je crois que, enfin, avec mes collègues qui en avaient écrit Le choix de la guerre civile, on se situe plutôt du côté des travaux qui cherchent à penser le néolibéralisme à la fois dans son histoire, mais aussi dans ses propres mutations et métamorphoses.
Comme peut-être aussi dans Queen Slobodian,
exactement,
dans son dernier travail, pas encore traduit en français, mais Hayek Bastards, donc un peu les descendants en quelque sorte de Hayek, et la fusion entre des pensées beaucoup plus ancrées dans une pseudo-biologie idéologie, y compris racialiste, fétichisant totalement les thèses de QI, etc. Et de l'autre, évidemment, un libertarianisme ou un néolibéralisme radicalisé, hostile à toute forme d'État social et à toute forme de contre-pouvoir populaire, par ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant que tu cites ce livre de Quinn Slobodian, qui, effectivement, n'a pas encore été traduit, mais bon, pour celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresserait, c'est vraiment un livre... Bon, particulièrement intéressant parce qu'il montre que cette vague du Trumpisme, elle vient d'assez loin. Et notamment, ce qui confirme à nouveau cette idée d'une contre-révolution néolibérale qui est une contre-révolution en réponse à 68, elle vient notamment d'une des branches de l'école autrichienne autour d'une figure comme Murray Rothbard qui, après avoir pensé qu'il pouvait, au fond, faire alliance avec la New Left, a vraiment mis en place toute une stratégie populiste consistant, au contraire, à s'appuyer vraiment sur toutes les frustrations des hommes blancs comme une réponse à toute, enfin, une manière de mater toutes les revendications d'égalité. Ce qu'il s'agit donc de désactiver complètement, c'est la prémisse de l'égalité, avec cette idée que, au fond, l'ennemi a changé, quoi. Il n'est plus rouge, il est vert ou rose, enfin que les cibles ou les ennemis aujourd'hui, ce sont justement tous ces mouvements qui demeurent aujourd'hui quand même importants.
Les luttes antiracistes autour de Black Lives Matter aux États-Unis, en particulier dans les années 2010 et en 2020, l'été 2020, les luttes féministes à l'échelle mondiale, malgré tout, toute une série de luttes syndicales ou de soulèvements populaires dans de nombreux pays du monde depuis une quinzaine d'années, bon, c'est pas absolument rien. Mais on pourrait dire justement que le néolibéralisme de thatchérien, si on veut, ou réganien, a été une réponse aux années 68, si on veut. On pourrait aussi dire que là, la vague néofasciste est une réponse à l'incapacité des gauches et des mouvements populaires après la crise de 2007-2008 à imposer une alternative ou à favoriser l'émergence d'une alternative, sans même parler de révolution à proprement parler. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve très fort chez Marcus. Le fascisme, c'est la mise en pièce préventive de toute forme d'alternative au capitalisme. Bon. Alors justement, qu'est-ce que nous propose en quelque sorte Marcus, à ton avis, pour notre conjoncture spécifique, qui n'est pas la sienne, puisqu'il est mort à la fin des années 70. Tu as parlé tout à l'heure de Front Uni, mais dans ton travail, tu parles aussi de la question des subjectivités, évidemment, qui est très importante, ou de nouvelles formes de subjectivité, de nouvelles anthropologies, qui est très fort chez Marcus, mais même de nouveaux langages. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments qu'on retrouve chez Marcus et qui, de son point de vue, pourraient faire obstacle à la dynamique fasciste, néo-fasciste ?
Hélas, moi, j'ai quand même l'impression, je sais que c'était aussi ta conclusion dans la Nouvelle Internationale fasciste, moi, j'ai quand même l'impression qu'au fond, beaucoup de choses ont changé, évidemment, beaucoup de choses se sont radicalisées, 50 ans de néolibéralisation forcenée des sociétés, des subjectivités, c'est pas rien, donc. Mais au fond, la seule issue qu'il percevait pour sa part, c'était effectivement cette idée d'une alliance. Et cette alliance, ça reste, je crois, vraiment la grande exigence politique aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui refusent la logique de la destructivité dont on sait aujourd'hui avec la catastrophe climatique qu'il faut la prendre très au sérieux. C'est-à-dire, on parle quand même aujourd'hui de la fin de l'habitabilité de la planète. Bon, c'est des choses qui devraient pouvoir mobiliser très largement. Donc, je crois que de ce point de vue-là, la grande leçon politique de Marcuse, ça reste cette idée de l'alliance, mais effectivement, peut-être aussi, et c'était le cas d'Aérocivilisation, cette idée si centrale aujourd'hui, qui est qu'au fond, il ne faut pas présenter cet horizon révolutionnaire ou des formes de décroissance comme des formes de vie dans lesquelles, au fond, on serait dans des formes de renoncement, comme tant d'aller présenter tous les gens qui se moquent comme ça un petit peu des vies simples, de la décroissance, comme si tout à coup...
Un retour à l'état de nature,
voilà, c'est ça.
De misère, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça. Alors que pour Marcuse, au fond, d'une certaine manière, la seule et véritable richesse et la seule véritable abondance, c'est précisément une forme de vie qui laisse une réelle possibilité aux individus de déployer leurs propres capacités librement, d'auto-déterminer collectivement leur existence, de définir leurs véritables besoins. Si on prend tous les travaux de l'écomarxisme et notamment de Kwai Saito, par exemple, bon, je crois qu'au fond, ça reste très en accord avec ce qui était, d'une certaine manière, le programme politique de Marcuse. de parvenir à dépasser ces formes de vie et ces formes de société entièrement fondées sur cette logique mortifère qu'est celle de ce qu'il appelait la consommation-destruction. D'une consommation qui est d'emblée une destruction, parce qu'elle est fondée sur une destruction du vivant, mais aussi parce qu'elle est basée sur des ressorts libidinaux extrêmement, en réalité, mortifères. Le désir pris à une compulsion de consommation, l'incapacité finalement à penser, à prendre du temps pour se poser, pour réfléchir. Bon, pour Marcuse, l'un des besoins centraux émancipatoires, c'était justement cette idée d'un besoin, non pas d'une vie polluée, d'une vie pleine de marchandises, etc., mais d'une besoin de silence, besoin de calme. Je crois que ça reste, de ce point de vue-là, aussi très actuel.
Tout à fait. Merci beaucoup, Aude Guéguin, pour cet épisode. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et d'être fidèles à Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Donc, j'étais aujourd'hui avec la philosophe Aude Guéguin, autrice de plusieurs livres, et notamment tout récemment de ce livre sur Herbert Marcuse intitulé « Herbert Marcuse face au néofascisme » aux éditions Amsterdam. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. En attendant, face aux fascistes et face à la fascisation, on serre les rangs et on tient la ligne.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Spectre.